Les deux orphelines, première partie. Chapitre 3. Le jour même où les habitants de la rue de la Mortellerie avaient à subir dans leur mansarde de si douloureuses épreuves, une fête allait être donnée dans un hôtel du quartier le plus riche et le plus aristocratique de Paris. Le faubourg Saint-Germain n'était pas, à cette époque, envahi comme il l'a été depuis par des maisons bourgeoises à 5 ou 6 étages. La partie qui se rapproche des Invalides était surtout et presque entièrement occupée par de vieux hôtels avec des jardins plantés d'arbres magnifiques et par quelques établissements religieux dont les jardins ressemblaient à des parcs. Point de boutique, point d'usine, ni de fabrique, ni d'entrepôt de marchandises. Rien du mouvement des quartiers populeux, ni de leur bruit assourdissant. Des rues où l'on ne rencontrait jamais que de rares équipages, aux heures des offices ou de la promenade. Enfin, un calme, une tranquillité parfaite, et, à quelques minutes, la plaine de Grenelle avec ses champs de blé. C'était presque la campagne. L'hôtel du marquis de Vaudrey, situé à l'extrémité du faubourg, était séparé de la rue par une grande cour ayant 2 entrées. L'une, petite et basse, taillée dans le mur, était exclusivement réservée aux domestiques et aux fournisseurs. L'autre consistait en une superbe grille surmontée par un énorme écusson aux armes de la famille. Le Suisse, en grande livrée, avait seul le droit d'en ouvrir les 2 battants pour laisser circuler les carrosses de ses maîtres ou ceux des nobles personnages qui venaient leur rendre visite. En face de cette entrée princière, sous un auvent d'une simplicité des plus élégantes, 5 ou 6 marches en marbre conduisaient à un immense vestibule où 2 laquais se tenaient debout sans qu'il leur fût permis de se parler autrement qu'à voix basse, ni de s'asseoir sur les banquettes en velours placées contre les murs. De ce vestibule, on pénétrait dans les appartements, salle à manger, grands et petits salons, boudoirs, bibliothèques, et même dans la chapelle Louis XIII, où l'on célébrait toutes les cérémonies religieuses de la famille, naissances, communions et mariages. Dans le salon d'honneur resplendissaient de magnifiques tapisseries des Gobelins, des lustres en cristal de Venise, des panneaux en vieux chêne sculptés qui servaient de cadre aux portraits en pied des illustres ancêtres de la maison. Toute la gloire des deux Vaudrey était là, représentée par des armures de connétables, des robes de magistrats et de riches costumes de chambellans du roi. 3 grandes portes-fenêtres donnaient accès sur une large terrasse dont la balustrade en porphyre était ornée de vases et de bustes antiques, et d'où l'on descendait dans un magnifique jardin dont les allées gracieusement dessinées serpentaient pendant l'été sous d'épais ombrages et conduisaient à un petit kiosque, charmante retraite à l'abri des regards indiscrets, et qui servait de salon de lecture ou de travail. Devant la maison, des pelouses du vert le plus tendre, bordées de massifs de roses et de plantes exotiques, un bassin entouré de saules pleureurs et sur lequel glissaient majestueusement des signes d'une blancheur éblouissante. Des bosquets, garnis de tables et de sièges en bois des îles, et enfin une serre qui servait aussi de volière, complétaient cet éden, séjour d'une adorable créature, Mademoiselle Diane de Vaudrey. C'était en son honneur qu'allait être donnée la fête dont on faisait les apprêts. C'était pour elle que l'on couvrait de draperies blanches et de fleurs d'oranger les murs de la chapelle. À 3 heures sonnant, Mademoiselle de Vaudrey et Monsieur le comte de Lignières recevraient la bénédiction nuptiale. Et, comme il fait encore grand jour, que les invités ne doivent arriver qu'à la nuit tombante, nous allons en profiter pour faire connaître au lecteur les principaux personnages de cette journée solennelle et les événements qui l'avaient précédée. Le marquis de Vaudrey était le type exagéré de ces anciens grands seigneurs dont la race a presque entièrement disparu. Pour lui, il n'y avait au monde qu'une seule chose réellement enviable et respectable, la noblesse du nom. Le nom des deux Vaudrey. C'était un diamant de la plus belle eau, et malheur à quiconque en altérerait la pureté. Le marquis avait en horreur profonde messieurs les philosophes, gens de rien qui s'avisaient, depuis quelques années, de parler d'égalité. Comme s'il était possible pour lui, par exemple, le dernier rejeton de l'illustre famille des Vaudrey, il fut pétri de la même pâte que son valet de chambre ou son notaire. Un jeune officier des gardes ayant eu l'audace, dans un petit souper, de proclamer homme de génie les écrivains propagateurs des idées nouvelles. « Ce sont des drôles !» s'écria le marquis en renversant d'un coup de poing sa tasse de café. La réplique était rude. Elle valut au marquis un coup d'épée qui le mit sur le flanc pendant 6 semaines. Mais la supériorité de la race avait été maintenue. L'honneur était sauf, le diamant restait pur. Un tel excès d'orgueil n'était pas fait pour adoucir le caractère. Et si, dans le monde qu'il aimait beaucoup, le marquis s'efforçait de paraître gai, aimable et même assez bon quand on faisait appel à son cœur et à sa bourse, une fois rentré chez lui, le naturel revenait au galop. Il n'y avait plus qu'un maître, un tyran, qui n'admettait pas qu'on pût avoir d'autres idées que les siennes. Toute résistance était impitoyablement brisée. Le marquis approchait de la cinquantaine lorsqu'il perdit sa femme et, avec elle, l'espoir encore caressé d'avoir un fils qui hériterait en ligne directe de tous ses titres, biens et domaines. Il se consolait en pensant que son neveu portait le même nom qu'en le mariant à l'aînée de ses deux filles, la maison de Vaudrey ne s'éteindrait pas. Le cousin était riche, il possédait dans la vallée de Chevreuse un vieux castel entouré de châsses magnifiques et il semblait fort épris de mademoiselle Mathilde qui, de son côté, le regardait d'un assez bon œil. Mais ceci importait peu. Chez les deux Vaudrey, de temps immémorial, quand une fille avait atteint l'âge d'être mariée, c'était le père seul qui devait s'occuper de lui choisir un mari, et le choix, une fois arrêté par lui, sa fille n'avait plus qu'à se soumettre et à l'accepter. Ce fut dans ces conditions que mademoiselle Mathilde épousa son cousin. Sitôt le mariage conclu, elle suivit son mari à Chevreuse, où il passait la plus grande partie de l'année, et le marquis resta seul à Paris avec sa seconde fille, Diane de Vaudrey, qui n'avait encore que 14 ans et qui était déjà une adorable personne. Encore 2 ou 3 années, et le marquis n'aurait pas grand-peine à lui trouver un mari. Il lui suffirait pour cela de continuer ses relations dans le grand monde. Rien ne lui était plus facile et plus agréable, car il avait horreur de la solitude et du calme d'une vie bourgeoise. Il lui fallait le mouvement, les fêtes, les bals de Versailles ou du noble faubourg pendant l'hiver, les voyages, les eaux, la mer pendant la belle saison et les grandes chasses à l'automne. Diane devenait de jour en jour plus jolie, plus séduisante. Elle était très bonne musicienne, elle dansait à ravir et montait à cheval comme une amazone. Aussi, que de succès, que d'adorateurs. Elle avait à peine 17 ans et déjà l'heureux père était accablé des plus flatteuses demandes. Il n'en repoussait aucune, mais sans rien en laisser voir, même à sa fille, il avait fait son choix. Le comte de Lignières était un fort bel homme, d'une 30aine d'années, très distingué, très bien en cour, et Diane, sans lui avoir fait la moindre avance, sans même qu'elle s'en doutât, lui avait inspiré une véritable passion. Le marquis n'avait pas tardé à s'en apercevoir, et cette découverte le mettait au comble de la joie. Monsieur de Lignières avait devant lui le plus bel avenir. Au premier jour, il serait nommé ambassadeur, et plus tard, qui sait s'il n'arriverait pas à être ministre. C'était donc un parti superbe, une occasion qu'il fallait saisir au vol. Malheureusement, le comte ne se déclarait pas. Il était auprès de Diane d'une timidité tout à fait enfantine. Il la dévorait des yeux sans trouver une parole à lui dire. Évidemment, il doutait de lui-même. Une circonstance tout à fait imprévue vint encore compliquer la situation. L'hiver, qui touchait à sa fin, avait été des plus brillants. Les bals s'étaient succédés presque sans interruption, et Diane, qui était d'une nature délicate, avait peut-être abusé de ses forces. Enfin, pour cette raison ou pour une autre, elle perdait peu à peu ses jolies couleurs et ne se plaisait plus que dans la solitude. Elle passait des journées entières, étendue sur sa causeuse et plongée dans une rêverie que l'on ne s'expliquait pas, mais qui était fort inquiétante. Elle, qui s'était toujours montrée si vivante et si bonne, rien ne l'intéressait plus, ni ses travaux de jeune fille, ni son jardin, ni ses oiseaux qu'elle aimait tant. Un vieux recueil de prières qu'elle avait toujours dans sa poche faisait maintenant sa seule lecture, et aussi une petite gazette que son père laissait souvent traîner sur les meubles. Mais, avant de se risquer à la prendre et à la lire, elle avait bien soin de s'assurer que personne ne pouvait la voir. Un jour, quelques amis étant venus prendre des nouvelles de sa santé, elle s'était décidée à passer au salon, et, pour la distraire, on se mit à parler de toutes sortes de choses, de toilettes, de musique, et enfin d'un combat très sérieux que nos troupes avaient livré aux environs de Verdun. La victoire nous était restée, mais elle avait coûté cher, et plus d'une famille allait être cruellement frappée en lisant les noms de ces malheureuses victimes du devoir. Diane n'avait pas ouvert la bouche, mais dès que les visiteurs eurent pris congé et qu'elle ne se vit seule, elle se jeta sur la gazette qu'elle avait aperçue dans un coin et se mit à la parcourir anxieusement. Arrivée à ces mots, liste des blessés et des morts, elle s'arrêta un instant, porta la main à son cœur, puis, faisant un effort sur elle-même, reporta les yeux sur la liste fatale. Tout à coup, elle poussa un cri déchirant et tomba à terre sans connaissance. Quelques minutes après, le marquis entra. C'était l'heure du dîner et il venait chercher sa fille. « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-il en la voyant à terre évanouie. « Diane, mon enfant ! À moi, du secours !» Il courait à la fenêtre, qu'il ouvrait toute grande, au timbre d'acier qui était sur la cheminée, puis il revenait vers sa fille, et, pendant qu'on l'aidait à la secourir, il se demandait ce qui avait pu provoquer cet évanouissement. Peut-être la chaleur, le manque d'air. Elle est devenue si délicate, si impressionnable, pourvu que ce ne soit pas le début de quelque grave maladie. Heureusement, la pauvre Diane avait repris connaissance, mais il fallut la transporter dans sa chambre et la mettre au lit. Elle était en proie aux agitations d'une fièvre brûlante. Le marquis se hâta de faire appeler le médecin de la famille et d'expédier un courrier à Chevreuse avec un billet qu'il venait d'écrire à sa fille aînée. Ce fut un coup terrible pour cette bonne dame déjà si éprouvée. Après un an de mariage, elle venait de donner naissance à un garçon lorsque son mari lui fut enlevé en quelques jours par une maladie aiguë. Le marquis lui offrit alors de revenir à Paris. Rien ne put l'y décider, même les supplications de sa sœur qu'elle adorait. Mais au reçu de la lettre de monsieur de Vaudrey, elle envoya immédiatement quérir des chevaux de poste et, malgré la distance et le mauvais temps, elle se mit en route, impatiente de revoir sa chère Diane et persuadée que personne ne pourrait la soigner mieux qu'elle. En effet, au bout de quelques jours et autant de nuits passées au chevet de la malade, elle eut la joie de constater que la fièvre avait presque entièrement disparu. Mais un terrible mystère lui fut alors secrètement révélé par le médecin. Dans quelques mois, Mademoiselle Diane de Vaudrey allait devenir mère. Alors, et par suite d'une entente secrète, le docteur déclara qu'il fallait conduire la malade loin de Paris. Un changement d'air et un repos prolongé étaient absolument nécessaires si l'on voulait, disait-il, obtenir une guérison complète. Mathilde, de son côté, proposa d'emmener sa sœur à Chevreuse dans son vieux castel qui ressemblait à un cloître bâti au milieu des bois. La malade trouverait là tout ce qui lui était ordonné, un air pur et fortifiant, pas de visites énervantes, une solitude complète, et, dès que Diane aurait retrouvé la santé, on la ramènerait à son père. « Partez donc !» s'écria celui-ci en embrassant ses deux filles. Et le soir même, Mathilde, enchantée d'avoir enlevé sa sœur, s'empressait de l'installer dans une chambre du château à laquelle attenait un grand cabinet où l'on mettrait un lit afin que la malade eût toujours auprès d'elle Marion, une grosse Bretonne qu'il avait vue naître, ne l'avait jamais quittée et qui éprouvait pour sa jeune maîtresse une profonde adoration. « Ma Diane, disait-elle dans son vieux patois, tous les êtres de la terre n'étions rien, pour Ménia quel monde. Elle bon Dieu ensuite !» Il est vrai que dans ses prières quotidiennes, la dévote bretonne retournait sa phrase habituelle et s'écriait « Seigneur, vous d'abord, et ma Diane ensuite !» Une heure après, Diane, silencieuse et pâle, en proie aux plus douloureuses pensées, était étendue sur le lit qu'on avait préparé pour elle. Brisée de fatigue, elle balbutia quelques paroles de remerciement, tendit son front à ses deux gardes malades et s'assoupit en pleurant. Alors, sans proférer une parole, la dame du château et l'humble servante se prirent la main. Elles regardaient leur chère Diane et, à leur tour, elles pleurèrent silencieusement. Près de 4 mois s'étaient écoulés depuis cette scène. Le marquis, d'abord très inquiet pour sa fille, n'avait pourtant pas jugé à propos de l'accompagner. Il la savait en bonne main, et puis il n'aimait pas à changer ses habitudes journalières. D'ailleurs, il fut bientôt complètement rassuré par les nouvelles qu'il recevait chaque semaine de Chevreuse. Diane reprenait des forces, elle se trouvait de mieux en mieux de son séjour à la campagne, dans les grands bois, et pour se conformer aux ordres du docteur, elle ne reviendrait pas à Paris avant la fin de la belle saison, ce qui enchantait le marquis. Comme la plupart des personnes douées d'une santé vigoureuse, le voisinage des personnes faibles ou maladives ne lui était pas agréable. Aussi, dans toutes les lettres que cet excellent père écrivait à sa fille, avait-il soin de l'encourager à prendre le temps nécessaire pour obtenir une guérison complète et à ne lui revenir que forte et joyeuse, ainsi qu'une demoiselle de son âge et de sa race devait l'être pour faire bonne et grande figure dans le monde. Il serait temps alors de donner suite au projet d'alliance qu'il avait caressé en secret et qu'il était loin d'abandonner. Le départ de Diane avait très vivement impressionné le comte de Lignières, mais bien qu'il se renfermât toujours dans un silence absolu, ses sentiments ne changeaient pas. Il venait prendre des nouvelles de mademoiselle de Vaudrey avec une régularité, un intérêt qui ne pouvait laisser aucun doute, et le jour où il apprit enfin que la guérison était maintenant certaine, il s'abandonna à une si grande joie que le marquis tendait déjà l'oreille pour écouter l'aveu que ce cher comte avait sur les lèvres. Mais la timidité lui coupait toujours la parole. Cependant, un matin, honteux de ses hésitations, il sonna son valet de chambre et donna l'ordre d'atteler. Le marquis venait, dans un petit billet très aimable, de l'engager à souper. Mais avant d'accepter, il voulait à tout prix sortir de la cruelle incertitude qui ne lui laissait plus un instant de repos. « À l'hôtel de Vaudrey !» cria-t-il au cocher en sautant dans sa voiture. Un quart d'heure après, il entrait, plein de courage, dans le fameux vestibule où les deux laquais étaient toujours de planton. « Le marquis est-il visible ?»« Monsieur le marquis déjeune. »« N'importe, annoncez-moi, le comte de Lignières. »« Oh, nous savons le nom de monsieur, mais je prierai monsieur le comte de vouloir bien me donner sa carte. »« La voilà, » dit le comte, et après l'avoir posée sur le plateau d'argent qu'on lui présentait, il entra d'un pas ferme dans le salon, dont le second laquais lui avait ouvert la porte. Quand elle fut refermée, il demeura un instant immobile, regardant autour de lui comme quelqu'un qui cherche à rappeler ses souvenirs. Ses yeux s'arrêtèrent sur une causeuse en tapisserie, ouvrage de mademoiselle Diane. « C'est là, se disait-il, qu'elle était gracieusement couchée la dernière fois que je l'ai vue. Sa pâleur, son air triste et souffrant me déchiraient l'âme. « Au revoir, me dit-elle avec un doux sourire, au revoir. » Ces deux mots sortant de sa bouche avaient pénétré dans mon cœur comme un rayon d'espoir. Ils m'ont aidé à supporter cette longue séparation. Et maintenant qu'il n'y a plus à trembler pour elle, maintenant qu'au premier jour elle va nous être rendue, c'est pour moi que je tremble. Ah, c'est trop souffrir, et je ne sortirai pas d'ici sans savoir ce que je dois craindre ou espérer. » Sur ces derniers mots, le marquis entra brusquement et, s'avançant vers le comte, il lui dit de l'air le plus affable. « Vous avez reçu mon invitation pour ce soir ?»« Oui, monsieur le marquis, et je vous en remercie, mais je ne suis pas certain de pouvoir en profiter. »« Et pour quelle raison, je vous prie ?»« Mes fonctions d'attaché d'ambassade. »« Une sinécure, un échelon pour arriver beaucoup plus haut. »« Soit, mais enfin, de temps à autre, je suis tenu de faire acte de présence. »« Le ministre me l'a rappelé hier fort courtoisement d'ailleurs, et je comptais partir demain, ou même ce soir. » « Demain, si vous voulez, mais ce soir, vous m'appartenez, et je vous garde. J'ai une surprise à vous faire. »« Une surprise ? À moi ?»« Oui, à vous et aux amis qui seront de la partie. »« Voyons, vous ne devinez pas ? Vous, un diplomate ?»« J'ai beau chercher... »« Eh bien, venez par ici. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, peu importe. » Et tout en parlant, il entraînait le comte du côté de la terrasse. « Regardez, là-bas, sous le grand bosquet. » « Ah, mon Dieu !» s'écria le comte. « Mademoiselle Diane » !»« Elle-même, oui, mon cher. Je commençais à trouver le temps long et la maison vide. Hier, j'ai envoyé à ma fille l'ordre de revenir immédiatement, et la voilà. » « Ah, monsieur le marquis, que je suis heureux de cette surprise !»« Hein ? Que dites-vous de notre jeune campagnarde ? Quel air de radieuse santé ! Jamais je ne l'avais vue aussi belle. » Le marquis souriait d'un air fin en regardant le comte qui était en extase devant la fenêtre. Alors, c'est convenu? Vous ne partez pas ce soir?
Oh non, certes!
J'en étais sûr.
À moins que...
Que quoi? Mais parlez donc! Vous avez l'air si troublé, si ému.
On le serait à moins, car j'ai une demande à vous adresser, monsieur le marquis. Et si votre réponse devait être contraire à toutes mes espérances, je partirais à l'instant pour ne jamais revenir.
Oh oh! Fit le marquis en affectant un air sérieux. C'est donc bien grave.
Tout ce qu'il y a de plus grave. J'adore mademoiselle Diane.
Eh, corbleu, que ne l'avez-vous dit plus tôt, mon cher? Au moins, s'il faut que vous partiez, vous ne partiriez pas seul.
Est-ce possible? Ai-je bien entendu? Mais alors, vous consentiriez donc?
Eh, voilà un siècle que vous jouez à l'amoureux transi. Que diable! Ce n'était pas à moi de rompre la glace.
Oui, c'est vrai. Il y a longtemps que j'aurais dû vous ouvrir mon cœur. Ce qui me faisait hésiter, ce qui me fermait la bouche, c'était la crainte que j'éprouve encore.
La crainte de quoi?
D'aimer, hélas, sans avoir su me faire aimer.
Allons donc, mademoiselle de Vaudrey a des yeux, de l'esprit et du cœur, et elle n'est pas fille à rester indifférente aux sentiments nobles et respectueux d'un homme tel que vous.
Puissiez-vous dire vrai?
Rassurez-vous donc, et touchez-la, ajouta le marquis en lui tendant la main. Dès à présent, vous avez ma parole de père et de gentilhomme.
Ah, monsieur le marquis, je vous devrai le bonheur de ma vie. Pourvu que mademoiselle Diane consente.
Ma fille hésiterait à accepter un époux de mon choix.
Allons donc, vous ne connaissez pas les de Vaudrey, mon cher. Pareille chose ne se serait jamais vue.
À ce soir. Et pour Dieu, ajouta-t-il gaiement, en frappant sur l'épaule du comte, tâchons d'animer la statue et de lui délier la langue.
Mademoiselle Diane m'inspire un si grand respect. Enfin, je ferai de mon mieux. Seulement, je vous en conjure, ne lui dites pas un mot de tout ceci. Je ne saurais plus quelle contenance tenir devant elle. Je partirai demain, et pendant mon absence, vous m'écrirez, n'est-ce pas? Vous me direz.
Tout ce qu'elle me confiera, mon gendre.
Le comte, ému jusqu'aux larmes, se jeta dans les bras de son futur beau-père et se hâta de sortir. Le marquis avait atteint son but.